Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Les solutions pour le problème du Congo et de l'Afrique peuvent venir même des plus jeunes. C'est la réflexion d'un jeune étudiant et entrepreneur déjà que je reçois ce soir. Il s'appelle Fildi Loata. C'est la dernière émission de ce mois d'avril. Nous avons bien commencé la balade ensemble. Nous allons la finir et ce sera avec un jeune étudiant. Bonjour Fildi.
Bonjour monsieur Clostefi. Merci beaucoup de me recevoir dans votre plateau.
Alors, un plaisir de te recevoir dans YouJob, la passerelle entre l'employeur et l'employé. C'est ici que les discussions sur les milieux professionnels, sur l'emploi, sur l'entrepreneuriat se déroulent. Alors, on te reçoit surtout pour ce que tu réalises. Déjà, à 19 ans, je le rappelle, tu veux voir loin. Tu vois loin, oui, avec notamment ton livre que tu intitules « Entreprendre pour le pain ou pour l'empire ». C'est le titre du livre que tu as déjà publié. Le livre évoque le mariage entre la crise des leaderships et la crise économique qui frappe les nations africaines. Le livre propose alors une solution face à ces chaos selon son auteur. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous aurez le plaisir de découvrir qui est non seulement l'auteur Fildi, mais également c'est quoi ces livres et qu'est-ce qu'il veut nous communiquer par rapport à ces problèmes, ces chaos même que nous rencontrons. Je suis très content de savoir que vous nous suivez, fidèles auditeurs. Vous êtes nombreux dans notre pays, même en dehors du pays, vous qui suivez cette émission. Ah, ça tombe bien parce que Fildi veut être plus panafricain, plus panafricaniste que national. Alors, aujourd'hui, déjà, je vais être plus direct par rapport à ce qui nous intéresse, entreprendre pour le pain ou pour le Congo, une solution pour répondre au chaos. Entreprendre pour le pain ou pour l'empire, une solution pour répondre au chaos qui rencontre l'Afrique. Alors, d'où est venue déjà cette inspiration pour écrire ces livres?
Ok, merci beaucoup pour la question. Alors, ce livre-là, vous savez, c'est venu d'abord d'un constat très général. Aujourd'hui, on est beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui et tout le monde veut entreprendre. Mais après, je me suis dit, ok, on entreprend, mais dans quel contexte exactement? Et quand je commence à réfléchir, je me dis, alors on entreprend, mais nous sommes dans un contexte africain. Et le contexte africain exige une certaine manière d'entreprendre. Et on ne peut pas entreprendre comme si on était en France. Parce que le contexte français est très différent du contexte africain. Je suis beaucoup plus panafricaniste. Je parle directement du contexte africain, contexte congolais. Et là, je me dis, ok, quel est le véritable problème de l'Afrique? Quel est le véritable problème de l'Afrique?
C'est la réflexion qu'il y a dans le livre.
Oui, c'est vraiment quel est le véritable problème de l'Afrique. Après, je me dis, ok, quel est le véritable problème aussi du Congo? Parce que le problème de l'Afrique, c'est le problème du Congo. On ne peut pas oublier ça parce que si l'Afrique est puissante, le Congo est puissant. Et donc, je me dis, ok, il y a deux problèmes assez importants que le Congo et l'Afrique partagent. Il y a premièrement la crise des leaderships et deuxièmement la crise économique. Je me dis, mais quelle est la solution que moi je peux apporter? Parce que vous savez, aujourd'hui, les problèmes, c'est qu'on passe beaucoup de temps à parler des problèmes qu'à commencer à penser aux solutions aux problèmes. Je me suis dit, ok, je ne veux pas commencer à rester sur le problème que j'ai constaté, mais je veux commencer à réfléchir comme un entrepreneur. Je vais trouver une solution qui ne va pas seulement servir aux Congolais, mais qui va servir à tous les Africains.
Alors avant d'ailleurs d'aborder la question sur la solution que tu évoques dans ton livre, je rappelle que tu n'as que 19 ans et tu y es en étudiant et en même temps tu es entrepreneur déjà, tu entreprends dans quoi?
Alors j'ai 19 ans oui, alors petite histoire, c'est que moi j'ai eu cette grâce là d'avoir les bonnes informations à 16 ans.
Ok.
En cinquième, je me rappelle que...
En étant adolescent,
je me rappelle que j'avais vraiment honte de mon âge. Parce que j'étais parmi les grands. C'est-à-dire, j'ai étudié avec des personnes qui sont très âgées que moi. Donc le jour où on a découvert mon âge, on a commencé à se moquer de moi.
Okay.
Et moi, ça m'a motivé.
Donc,
en fait.
Tu dissimulais ton âge.
Oui, j'ai dissimulé mon âge à un moment. Mais après, je me suis dit, ok, est-ce que l'âge aujourd'hui, c'est vraiment important? C'est ce qui est dans la tête qui est vraiment important. Mais après, je me rappelle que pour la petite histoire, moi, je suis entré dans ce chose de l'entrepreneuriat et autres. C'est lorsque mon père, lui, il a l'habitude, je ne sais pas si les parents des autres, ils ont cette même habitude, mais il a l'habitude de toujours envoyer des vidéos qu'il prend, je ne sais pas moi où, et il transfère ça à tous ses enfants en tout cas. Et cette fois-là, moi, je ne regarde jamais ses vidéos quand il envoie pas. Je sais qu'il va envoyer seulement beaucoup de vidéos. Ça me perd beaucoup de méga. Et à 16 ans, cette fois-là, je ne sais pas pourquoi, mais je clique sur la vidéo et je tombe sur un entrepreneur. Cette fois-là, c'était le docteur Claudel Nubissi. Je commence à le suivre. Je me rappelle, j'étais en 5e année au temps de la Covid. Je le suis. Il révolte mon esprit au même moment. Et je me dis non, je dois au moins changer. Je dois au moins contribuer au changement. Et c'est en ce moment-là que je commence à entreprendre à 16 ans. Et à 17 ans, je me dis ok, je ne vais plus cacher mon âge. Ce que je fais, c'est déjà tellement énorme que même les enfants ou les jeunes de mon âge ne font pas. Pourquoi ne pas parler de mon âge? Et au fur et à mesure que j'avance avec mon âge, sûrement il y a des milieux où quand tu donnes ton âge, on te dit bon ok, tu peux pas faire ça, tu es encore trop jeune, attends un peu. Mais après, je pense qu'avec tout ce que je fais, ils seront obligés de me respecter à un moment par rapport à sans compter mon âge et autres. Et je suis étudiant aussi à l'Unikin, j'ai fait la faculté de droit. J'ai commencé à entreprendre d'abord premièrement avec une première entreprise, Rainbow Clean. C'est une entreprise dans la cosmétique. On a réuni beaucoup de jeunes. J'étais avec mes amis et autres. On était en train de produire d'abord premièrement des produits pour laver les maisons et autres, les sols. Mais après, j'ai créé une deuxième entreprise cette fois-là, moi et mon frère. Elle se nomme Ndi en Chiluba qui signifie œuf. Alors cette entreprise-là, alors ça nous a demandé beaucoup avec notre jeune âge, mais on a essayé de forcer. Alors c'est une entreprise qui commercialise les œufs, c'est-à-dire j'ai une petite ferme où on a des poules. Ils sont très exigeants côté argent et autres, mais on essaye vraiment d'aller un peu plus loin. Et je pense qu'on a créé cette entreprise parce que je suis tombé sur une affiche, en tout cas qui m'a révolté, qui m'a énervé à un moment. 80% des œufs au Congo, on importe les œufs jusqu'à ce jour au Congo.
Et je me suis dit... Ce qui t'a donc poussé...
Oui, ça m'a poussé.
Et commencé à vendre des œufs, mais des œufs qui sont bien...
Bio et produits ici. Parce que, vous savez, je me suis dit, ok, mais on importe les œufs, mais c'est pas seulement ça. Mais je voulais changer aussi la donne. Donc, dans l'entreprise, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne vend pas seulement les œufs. On vous montre, en fait, comment d'abord les poules sont traitées. Les processus, quels aliments on est en train de leur fournir. Mais après, on vous montre que ce que vous recevez comme produit fini vient d'un travail, d'un dur labeur de beaucoup de temps. Vous voyez un peu? Et on essaye vraiment, avec les réseaux sociaux, de filmer chaque étape. Chaque étape de tout ça pour leur montrer.
Dans votre stratégie sur Internet, là, sur vos pages, vous montrez comment vous produisez ces œufs que vous vendez. Alors, la frustration, c'est que... Tu as remarqué que 80% des œufs consommés dans notre pays étaient importés. Et ce qui t'a poussé à entreprendre.
Ok, oui. C'est exactement ça. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Donc, les œufs, en fait, on ne peut pas payer des poules et faire de l'élevage. Même les œufs, on doit toujours.
On comprend
importer.
Maintenant cette casquette d'entrepreneur parce que tu te présentes non seulement comme étudiant, mais également entrepreneur. Donc, tu évolues avec ton entreprise Ndi qui vend des œufs.
Oui.
Des œufs qui sont produits ici en République démocratique du Congo. Alors, ce qui nous intéresse, on va revenir sur ton côté entrepreneur, mais ce qui nous intéresse, c'est ces livres que tu as publiés et ça fait réfléchir un jeune qui n'a que l'âge que tu as, mais tu te permets déjà de sortir un livre pour parler de problème le plus compliqué du continent, celui de la crise économique. Et tu associes la crise économique et vit l'Afrique à une crise de leadership. Alors, c'est quoi la solution que tu nous proposes dans ton livre?
Alors déjà, ce livre-là, vous savez, ça vient comme, moi je l'appelle la solution, en tout cas idéale, pour l'Afrique, pour ces deux problèmes-là, parce que ce sont des problèmes majeurs. Premièrement, la crise des leadership veut d'abord simplement dire qu'on n'a pas des leaders en Afrique. Parce qu'un leader, c'est d'abord cette personne qui a la capacité de conduire un peuple jusqu'à un but. il a une vision précise dans sa tête et il sait conduire des masses à atteindre ces buts-là précis. Je me suis dit, si aujourd'hui, les exigences de l'Afrique, les buts de l'Afrique, on ne l'atteint pas, c'est parce qu'à un moment, il n'y a pas des personnes qui doivent normalement nous conduire à ces buts-là. Je propose qu'il faut qu'il y ait normalement des leaders qui sont des leaders éthiques. Et là, je fais référence généralement, et j'en parle dans le livre, à deux personnes. Premièrement, à Patrice Lumumba. Deuxièmement, à Nelson Mandela. Ce sont des leaders éthiques. Et quand je fais référence aux leaders éthiques, ce sont des leaders d'abord, premièrement, qui ont des valeurs. Vous savez, aujourd'hui, même dans l'entrepreneuriat, même dans la politique, lorsqu'on y entre, il faut d'abord avoir des valeurs. Parce qu'on peut venir avec toutes les ambitions du monde, mais après, quand on se retrouve dans un univers où tout le monde vole, nous, on va devenir aussi voleurs.
Mais quand on voit Nelson Mandela, Lumumba, c'était des vrais leaders, oui, comme oui, tu le dis, mais on parle d'entrepreneuriat, ils n'étaient pas des entrepreneurs.
Non, en fait, vous savez, ce livre vient résoudre deux problèmes en même temps.
Okay.
Premièrement, l'entrepreneuriat, ici, je l'évoque comme étant une solution à la crise économique. Je me dis, ok, aujourd'hui, on importe tout et on n'exporte rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit attendre? On va dire, on doit se prendre en charge. En fait, quand je parle de l'entrepreneuriat, c'est pour se prendre en charge. Okay. Et c'est en ce moment-là que je dis, ok, il faut entreprendre pour l'Empire. Entreprendre pour l'Empire veut dire quoi exactement? Entreprendre pour l'Empire veut dire, je commence petit. Il faut accepter de commencer petit avec rien pour finir grand, avec une vision claire et panafricaine.
C'est ce qui manque aux entrepreneurs congolais.
C'est ce qui manque.
Ils commencent
Oui, vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs veulent devenir riches aujourd'hui quand tu crées ton entreprise. Tu crées ton entreprise aujourd'hui, tu veux devenir riche demain. C'est impossible. C'est exactement ce que les entrepreneurs aujourd'hui congolais veulent. On veut la richesse très facile. C'est-à-dire, tu lances ton entreprise aujourd'hui, demain tu deviens riche. C'est carrément impossible, personne ne l'a fait. Vous voyez un peu? Et c'est exactement ça que je viens poser comme fondement aux entrepreneurs congolais. Je leur dis, ok, vous avez l'obligation d'abord de commencer petit. Parce que si vous ne commencez pas petit, vous n'allez rien faire. Et si vous attendez avoir tout, vous allez attendre longtemps. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui, ils attendent avoir tout pour commencer. Or, tu ne peux pas tout avoir pour commencer. Tu dois commencer avec les peu que tu as. Et c'est ce que, en fait, Entreprendre pour l'Empire veut dire. Commence avec les peu que tu as, mais avec une vision que tu dois avoir beaucoup pour contribuer au développement de la communauté. Et c'est exactement vraiment l'idée, le logos de Entreprendre pour l'Empire.
Ok, alors c'est le fondement, c'est l'inspiration. J'avais posé cette question. Tu as dit que tu avais vu un entrepreneur qui t'a inspiré. Alors, est-ce que c'est un modèle que toi tu t'es créé ou un modèle que tu vois auprès des autres personnes qui t'inspirent ou c'est l'expérience que tu as vécue? Parce que tout ça, on se pose ces questions pour savoir comment un jeune qui a 19 ans se permet, allez, je vais sortir un livre et puis proposer des solutions à des personnes qui sont plus âgées et qui ont certainement plus vécu.
Alors, je comprends votre question comme si c'était comme si vous me demandez si le livre c'était une expérience personnelle. Non, c'est pas une expérience personnelle, ça c'est déjà un point. C'est un début de réflexion. Le livre, ce n'est pas une expérience personnelle. Je ne donne... Il y a peut-être 5 lignes de mon expérience personnelle.
Ok.
Et c'est un début de réflexion. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici, on est en train de réfléchir. Et à chaque page, il y a un moment où je laisse à tout le monde le temps aussi de poser ses bases à lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, j'ai réfléchi avec A. Je vous laisse le temps de vous aussi réfléchir pour aller jusqu'à B. Je ne vous cadre pas dans une expérience que vous devez copier ou coller. Non. Je viens, je dis, ok, on doit entreprendre pour l'Empire. Mais après, vous, qui allez me lire, vous ne restez pas dans ça. Vous commencez à réfléchir comment je dois commencer à entreprendre pour une grande vision. Et c'est exactement ça, vraiment, l'idée du livre. Ce n'est pas venir vous dire, ok, je suis devenu riche à 19 ans, c'est là, je suis venu vous parler de ce... Non, ce n'est pas une expérience. C'est d'abord un début de réflexion. Je vous dis, ok, moi, je pense qu'on doit faire ceci. Mais après, quand moi je pense ceci, vous pouvez ajouter votre réflexion à vous, partant de ma réflexion à moi. Vous voyez un peu?
Entreprendre pour les pains ou pour l'Empire, c'est les titres de ces livres déjà disponibles. Alors c'est disponible depuis quand et qu'est-ce qu'il faut pour acheter ces livres?
Alors c'est disponible depuis le 10 avril, c'était d'ailleurs à la veille de mon anniversaire, je tenais à ce que ça sorte avant que j'aie 19 ans. C'est disponible sur Facebook, Phil Diluata, le 10 avril, donc à la veille de mon anniversaire, je tenais à ce que ça soit disponible à mes 18 ans.
Okay.
Et voilà, et c'est disponible sur Facebook. Donc si vous cliquez Phil D. Loata sur la barre des recherches, vous m'écrivez, ça sera direct, je pourrai directement vous répondre pour vous le livrer. Mais après, je pense que
dans le jour, pas encore dans une librairie.
Non, pas encore. Je pense dans les jours à venir, on va le mettre dans les librairies. Et je pense qu'on est en train aussi d'organiser une tournée des écoles pour la conscientisation, parce que vous savez, je tiens à cœur de parler d'abord de tous ces concepts dans le livre pour essayer de conscientiser le jeune comme moi, parce que je considère que l'âge n'est pas un obstacle. Et donc je commence d'abord avec ces élèves-là. Je vais commencer avec les élèves des classes terminales. J'ai déjà commencé avec une petite tournée pour commencer d'abord à sensibiliser ces jeunes-là, pour leur dire « Ok, vous êtes à l'école, mais vous pouvez commencer à réfléchir différemment. Il y a des enfants comme vous qui font différemment. Il y a des enfants comme vous qui émergent, même quand bien même ils sont écoliers, quand même ils sont élèves. » Et c'est exactement ça l'idée derrière.
Les livres, c'est bon à quel prix?
Les livres, en tout cas, j'ai fait l'effort de le mettre à 10$ pour que ce soit accessible. J'ai placé le livre à 10$. Donc quand vous m'écrivez, vous aurez les livres à 10$. J'ai voulu que ça soit très accessible, parce que d'abord les buts, c'est d'abord d'atteindre un certain palier de conscientisation de jeunes.
Alors j'aimerais savoir pourquoi cette couverture, parce que j'ai les livres avec moi, j'espère que nos auditeurs ne peuvent pas le voir en ce moment, mais vous pouvez visiter sur internet pour avoir une idée sur la couverture ou même tous les détails sur les livres. Alors moi j'ai les livres en noir et je vois l'image d'un soldat romain, je ne sais pas si okay. Je me trompe, ouais, d'un militaire romain. Alors pourquoi cette couverture?
Alors cette couverture là, j'ai reçu la même question hier lors d'une conférence, alors je vais répondre de la même manière. La couverture, en fait, ça parle de soi-même. Ce monsieur, ces soldats-là que vous voyez, il a la soif. Il a la rage d'avancer. Il a la rage d'avancer. Il s'est dit, ok, j'ai peur combattre, en fait. Je n'ai plus rien à perdre. Je dois aller combattre pour avancer. Il s'est dit, ok, mais là, malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai la soif de réussir. Et c'est exactement l'image de... Et je n'ai pas choisi ça de manière anodine. Non, non, c'est vraiment calculé. C'est pour dire que celui-là, quand il part en guerre, il s'est dit, j'ai part pour vaincre. Parce que c'est exactement ce qu'on doit inculquer dans nos têtes africains, congolais. C'est qu'on est là, on est en pleine guerre, normalement. Parce que nos colons, ils sont en train de nous marginaliser chaque jour. Parce qu'ils sont en train, vous savez, j'en parle même dans mon livre, ils nous obligent à chaque fois à dépendre d'eux. Et nous, Africains, nous, Congolais, on doit se dire qu'on doit avancer, on doit avoir la soif de se délier de tout ça et d'avancer, en fait. Et on doit se dire, comme ce soldat-là, qu'on n'a plus rien à perdre. Le Congo ou la mort, l'Afrique ou la mort.
Alors pourquoi utiliser l'image de ces soldats?
Je l'utilise premièrement, d'abord, c'est pour que la personne, même quand tu ne payes pas le livre, quand tu vois le livre, tu perçois directement que la personne qui... l'image du livre veut d'abord vous énerver, vous, de la situation que vous avez, et vous dire que, en fait, vous n'avez plus rien à perdre. Vous devez avancer. Parce que si vous n'avancez pas, vous allez rester à ce point de départ là où vous êtes. Et vous n'allez jamais changer les choses.
Entreprendre pour les pains ou pour l'Empire, c'est maintenant la question sur les styles, les métaphores, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça signifie, entreprendre pour les pains ou pour l'Empire? C'est les pains qui n'est pas bien, c'est l'Empire qui est bien. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, j'ai eu beaucoup de questions aussi par rapport à ça, parce qu'ils m'ont dit, bon, c'est un sujet de dissertation ou quoi. Mais en fait, en réalité, entreprendre pour le pain, déjà, vous savez, quand quelqu'un achète le pain n'est pas résistant. Vous allez manger les pains pour aujourd'hui, mais si vous laissez les pains jusqu'à demain, ça va pourrir. Vous ne pouvez pas manger le pain demain. Et le pain, c'est seulement pour vous-même d'abord. Et ici, dans ce concept, entreprendre pour le pain, cela veut dire entreprendre pour un désir momentané. C'est pour assouvir ses besoins présents, ses désirs présents. Or, entreprendre pour l'Empire, c'est d'abord une vision lointaine. L'Empire, on ne la construit pas en un seul jour. L'Empire prend du temps. Toutes les personnes qui ont réussi à construire un empire, ils ont pris beaucoup de temps à construire. D'abord la fondation, après élever les murs et autres. Et donc entreprendre pour le pain, c'est d'abord premièrement entreprendre pour un désir. Entreprendre pour juste acheter les téléphones, pour juste acheter un iPhone. Entreprendre pour le pain, c'est juste acheter, par exemple, assouvir, par exemple, je vais acheter un cabello ou autre. Mais entreprendre pour l'empire, là maintenant c'est, je me sacrifie. Je me dis que je ne veux pas manger aujourd'hui pour que demain, je mange dans un resto où je vais payer 1000$. Vous voyez un peu? C'est exactement ça la, la vision derrière entreprendre pour le pain ou pour l'empire.
Alors, une autre question, c'est par rapport au timing. Est-ce que tu penses que c'était les meilleurs timings pour nous proposer ces livres? Parce qu'ici, on parle de réalités qu'on rencontre au niveau de nos pays, mais réalités qui méritent des solutions. Alors, les timings, c'est que maintenant, tu as une expérience de 2 ans, je ne sais pas, dans l'entrepreneuriat. Et puis, tu vas conseiller des gens qui vont également s'élancer. Est-ce que c'était le meilleur timing ou est-ce qu'il ne fallait pas attendre un peu encore pour enrichir encore des idées et proposer? Ou en tout cas, c'est un livre qui précède d'autres livres, ça va être une suite logique?
Oui, en fait, vous savez, c'est je suis quelqu'un de très je programme les choses. Okay. Alors c'est pas.
Ce n'était pas un sentiment de oui, faire pas... voir au monde que voilà, j'ai 18 ans, non. Je publie déjà un livre.
En fait, si c'était le cas, j'allais publier les livres, j'allais publier un livre à 17 ans. Parce que je me rappelle que j'ai été formé par un de mes mentors quand j'étais encore élève en 6e et j'avais vraiment le désir d'écrire un livre sur l'entrepreneuriat. J'étais en 6e année, je pouvais publier ces livres là. Mais après, je me suis dit, les choses doivent se faire de manière programmée. Ça veut dire que je commence par A, après je termine par B. Et ça vient à point. C'est-à-dire que ça, ça place sur le marché. Pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, les problèmes, c'est quoi? C'est qu'on passe beaucoup plus de temps à changer des hommes. Aujourd'hui, on change des hommes dans des gouvernements, dans des institutions et autres. Mais après, on ne sait pas vraiment catégoriser les véritables problèmes. Et sur ce moment-là, je me dis, ok, mais ce livre-là doit vraiment venir en ce moment-ci pour essayer de conscientiser, pour essayer de faire son petit parcours. Je sais qu'après ça, il y aura d'autres qui sont en train d'arriver. Ça va venir vraiment au bon moment, au moment opportun, pour vraiment conscientiser. C'est d'abord ça l'obligation,
alors, est-ce
conscientiser.
Que tu es satisfait de l'accueil, de la réception, des impressions de ceux qui ont consommé les livres jusque-là, ceux qui l'ont acheté, ceux qui l'ont lu, qu'est-ce qu'ils disent?
Oui, vous savez, déjà, la première impression... c'est d'abord une impression, ils se disent, bon ok, c'est comme si j'étais en train de lire une dissertation assez explicite. Mais après, beaucoup de personnes, ils ont bien pris les livres. Mais après, je l'ai dit hier dans une conférence, c'est que ce livre vient d'abord premièrement pour énerver les gens. Et donc... Je n'ai pas, vous savez, c'est pas d'abord, je n'ai pas écrit d'abord le livre pour une appréciation des personnes. C'est-à-dire, tu dois lire les livres après avoir lu, tu dois d'abord être énervé pour après poser.
C'est quoi la motivation d'énerver les gens? On sort un livre pour énerver les gens.
Vous savez, je suis de ceux qui pensent que pour prendre une décision, vous savez, je suis de ceux qui pensent que pour prendre une décision, on prend une décision de manière très facile quand on est énervé. Imaginez-vous que maintenant là, on vous donne une baffe. Vous allez, combien de temps il va falloir entre vous réagir entre le moment où je vous gifle et le moment où vous réagissez? Je pense que lorsque quelqu'un est énervé, il va directement prendre une décision très rapide. Parce que vous savez, plaire aux gens, c'est mettre les gens dans un confort. Vous mettez les gens dans un confort où, bon, j'ai lu, c'est beau, c'est bien, mais après, c'est quoi le but?
Alors, qu'est-ce qui énerve les gens dans ces livres?
Premièrement, c'est quand tu lis, tu te dis, ok, mais pourquoi moi jusqu'à ce jour, je ne peux pas... Vous savez d'abord quand déjà, tu regardes déjà mon âge derrière, tu te dis, mais moi qui est en train de lire ça, jusqu'à ce jour, je ne fais presque rien. Qu'est-ce que moi j'apporte à la société? Mais après, toutes les idées exploitées ici, je suis en train de dire, ok, à ton âge, à tout ce que tu es en train de réaliser, tu dois impérativement changer les choses. Tu ne peux pas rester à ton point de départ. Tu ne peux pas rester comme si... Vous savez, c'est comme la coach Goretti, elle dit toujours, l'absence personnifiée, que tu sois là, que tu ne sois pas là, rien ne change. Non, quand tu lis le livre, à la première page, je te montre déjà que, en fait, ce livre, si tu n'es pas prêt à poser des actions après, tu dois le vendre ou tu dois le donner à ta mère ou tu dois le brûler. Parce que je ne suis pas venu plaire aux gens. Je n'ai pas écrit un livre pour plaire aux gens. Pas ça. C'est d'abord pour que, après, on se mette ensemble pour trouver des solutions. Voilà pourquoi même il y a une association derrière, Mwinda Startup. C'est parce que, oui, on écrit, mais après, ça sert à quoi de lire, relire? On a beaucoup lu, on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé, mais après, les solutions ne sont pas prises. Les choses ne changent toujours pas. On a lu beaucoup de livres, on a lu beaucoup des auteurs. Et c'est exactement ce que je veux changer avec le livre. Ce qu'on doit lire, mais après avoir lu le livre, on doit maintenant poser des actions. Si on n'est pas prêt à poser des actions après la lecture, qu'on ne lise pas le livre.
Donc, ce qui énerve, c'est mettre un peu la pression aux gens, leur faire voir qu'il faut agir, leur faire voir qu'ils n'ont pas de temps à perdre.
Qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut pas seulement passer le temps à lire.
Pas de temps, pas seulement à lire.
Vous savez,
en même temps, demander aux gens de ne pas lire. Mais...
Non, vous savez, vous savez, oui, c'est vraiment illogique. Tu vends un livre, tu dis aux gens de ne pas lire, mais après, c'est vrai. C'est qu'il y a beaucoup d'auteurs. On passe du temps à lire. Mais après, c'est quoi la solution après? Vous savez, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit des bonnes choses, des belles choses. Mais est-ce que nous, quand on est en train de lire ces choses, est-ce que notre vie à nous change? Non.
Alors, Mouinda Startup sera cette structure, je ne sais pas, cette organisation que vous créez. Après avoir lu les livres, moi, je vais m'enregistrer pour qu'on vienne réfléchir. C'est ça, si j'ai bien compris.
Mouinda Startup, en fait, on ne crée pas. C'est déjà créé.
Okay.
Mouinda Startup œuvre aujourd'hui, ça fait 6 mois. On a commencé d'abord en ligne. On a fait plus de 10 conférences. On a réuni près de 500 jeunes.
Ok.
Sur l'entrepreneuriat, l'employabilité, la conscientisation de jeunes et les panafricanismes surtout. Et après la lecture du livre, on incite les gens à dire, après avoir lu le livre, tu ne peux pas rester toi seul. Je suis de ceux qui pensent que nous tous, nous sommes des ignorants, mais on n'ignore pas tous la même chose et qu'on est dans l'obligation d'être ensemble pour évoluer. Je ne peux pas être seul à chercher à être le Superman pour évoluer, jamais. Je dois être dans une communauté où, quand je veux tomber, l'autre me rappelle que je ne peux pas tomber.
Ouais, ça c'est très intéressant. Alors merci Foldy, hein, je crois que je ne dis pas des bêtises.
Foldy
Lorata, d'avoir aussi des belles initiatives et de continuer ainsi. C'est vraiment intéressant. C'est parmi, je pense, en tout cas, je pense que tu es l'invité le plus jeune cette année de YouJob. Jusque-là, le record reste encore avec Davina qui est passé ici à 17 ans.
Okay.
Oui, mais après, c'est intéressant de voir autant de jeunes, 17 ans, 18 ans, 19 ans, avoir le courage.
C'est la rébellion, c'est la rébellion.
La rébellion.
On est en train de se rébeller.
Ça, c'est une rébellion positive. Alors,
oui.
C'est la rébellion.
C'est la rébellion positive. Vous savez, c'est quand les vieux, ils ne font pas ce qu'ils font, nous, les jeunes, on se dit, on peut aussi faire quelque chose. Et c'est ce qu'on est en train de faire.
Alors, c'est quoi la suite?
La suite, c'est qu'après ici, il y a d'abord une tournée aux écoles. Je vais faire une tournée aux écoles. Il y a quelques écoles à Limété, à Changu et autres. Mais après, il y a aussi une tournée dans les églises parce que je suis d'abord enfant de Dieu. Et je pense qu'un chrétien doit être excellent. Tu ne peux pas être chrétien et être médiocre. Je vais faire des tournées dans des églises pour pouvoir conscientiser. Après, dans les ONG. Et aussi, je vais finir avec les orphelinats. Dans les orphelinats, je vais faire avec les amis des formations gratuites parce que je pense que ces orphelins-là, ils ont besoin aussi d'inculquer la mentalité d'entrepreneur.
Alors, on va faire un peu court. Il y a beaucoup de réflexions que tu nous as proposées et que nous avons écoutées et que je pense les auditeurs aiment ou ils ont même aussi des questions peut-être qu'ils se posent sur un jeune qui est encore étudiant en même temps, qui écrit en même temps, qui est à gauche, à droite, qui entreprend, qui veut en tout cas aller partout. On sent cette rage-là même dans toi-même d'aller réussir et de laisser ton empreinte. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent retenir concrètement, en cours, en résumé, de ces livres? Entreprendre pour le pain ou pour l'empire?
Alors, en résumé, les auditeurs doivent retenir que le Congo, l'Afrique, a besoin de nous tous. S'asseoir ne résout pas des problèmes. Rester figé sur des problèmes n'a jamais résolu des problèmes. Mais on doit commencer à penser solution. On doit commencer à réfléchir à comment changer la donne. Je ne me plais pas à voir tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, en Afrique. Voilà pourquoi je propose le livre. Parce que je ne me suis pas attelé à penser au problème. J'ai directement migré vers la solution. Et je dirais à toutes ces personnes, c'est que même si tu n'as pas lu le livre, commence ce problème-là que tu es en train de vivre, que tu es en train de voir, que tu es en train d'observer. Tu ne dois pas commencer à rester sur ça. Tu dois commencer à penser solution et tu dois commencer aussi à penser Afrique, à penser Congo. Parce qu'on n'a que le Congo et on n'a que l'Afrique. Voilà, c'est un peu ce que les gens doivent vraiment retenir de manière assez brève de ce livre.
Alors pourquoi insister sur l'Afrique si on est encore au Congo? Et même en parlant du Congo, le problème du Congo est tellement immense qu'on parle parfois d'abord de Kinshasa. Et quand on parle de Kinshasa, le problème de Kinshasa est tellement immense qu'on parle d'abord de certaines communes. Et quand on parle de communes ici à Kinshasa, les problèmes de communes à Kinshasa sont tellement immenses qu'on parle des individus. Alors pourquoi vouloir déjà aller au plus large, parler de l'Afrique, alors qu'au Congo, d'abord au niveau du Congo, de Kinshasa et du Congolais, il y a encore beaucoup de problèmes. Pourquoi être autant panafricaniste alors que les problèmes sont énormes? Et puis en même temps, même en Afrique ici, à un certain niveau, le problème, les réalités, c'est différent.
Je suis de ceux qui pensent que si l'Afrique ne se développe pas, le Congo ne va pas aussi se développer.
Et les solutions du Congo dépendent de l'Afrique?
Les solutions de l'Afrique entraînent les solutions du Congo. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve des solutions pour l'Afrique, par ricochet, on va trouver des solutions pour le Congo. Et je suis... Oui, vous avez raison, c'est pour dire, ok, oui, on doit commencer à penser aux communes, les problèmes du Congo, de Kinshasa et autres. Oui, c'est bien. Je ne refuse pas. Je ne dis pas qu'il faut commencer à lancer une entreprise qui va commencer à... vous n'avez presque rien, mais vous lancez une entreprise qui doit commencer à vendre à toute l'Afrique et autres. Non. En fait, je vais inculquer une mentalité de garder à l'esprit qu'on est africain. De garder à l'esprit qu'on n'oublie jamais l'Afrique. Qu'après avoir résolu le problème de nos communes, de nos quartiers, on doit aussi régler le problème des autres pays. On doit s'entraider. On doit essayer de changer la donne de manière générale. Vous voyez un peu? Je ne dis pas que non, là, tu es jeune, tu as quelques 150 dollars, tu veux lancer ton entreprise. Tu dis non, je dois lancer une entreprise. Je mets une succursale en Afrique du Sud. Ah, ce sera compliqué. Commence à résoudre ce que le problème qui est dans ta commune, dans ton quartier, mais est dans ton esprit que tu es africain et que tu dois résoudre les problèmes de l'Afrique. Tu dois résoudre le problème de l'Afrique et que les exigences de l'Afrique sont plus importantes que toutes nos exigences ici.
Merci Fildi, on va passer à la prochaine rubrique de l'émission.
De fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la U-Job. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Alors ici, c'est les confessions. Ce sont des questions que je vais poser, mais des questions qui vont toucher à un peu certains points qui sont peut-être personnels,
okay.
Qui sont peut-être encore privés,
okay.
Qui sont des exclusivités, des choses que des gens n'ont jamais entendues, okay. Venant de toi, que tu as souvent gardées pour toi-même. Mais ici, on veut que tu les confesses. Alors, ce sera 6 questions seulement, on n'a pas voulu aller loin. 6 petites questions. Et la première question est de savoir, ici on répond avec honnêteté,
okay.
Et avec sincérité. Et on s'ouvre vraiment à nos auditeurs parce okay. qu'ils sont très, très curieux. Là, les oreilles s'ouvrent encore un peu plus pour avoir écouté ces réponses. Alors, dans quoi te vois-tu faire carrière ? Honnêtement, aujourd'hui, tu as encore des là, tu as 19 ans, tu es étudiant en droit, en même temps, tu vends des œufs et tu écris des livres pour conscientiser les autres. Tu veux faire carrière dans quoi? Honnêtement, quelles sont les confessions?
Alors, honnêtement, je vais d'abord faire carrière en tant que conseiller juridique. Ça, c'est d'abord une passion. Et voilà, je vais d'abord commencer par là, mais je garde en tête...
Conseiller juridique, mais c'est aussi vaste, hein, dans quoi...
Conseiller juridique, beaucoup plus dans les domaines internationaux. Je suis quelqu'un des panafricanistes.
Ok, donc, dans je ce vais... sens, il y a l'Afrique qui revient.
L'obligation, en fait, de faire le tour de l'Afrique pour résoudre les problèmes des Africains. Mais je pense beaucoup plus conseiller juridique, parce que j'ai fait le droit. Mais après, je vais finir, il faut garder cette partie. Je vais finir par être président de la République un jour.
Ok, finir par être président de la République, c'est une ambition. Bon, mais parlant de ta carrière, conseiller juridique. Donc, pour dire aujourd'hui qu'entrepreneur, c'est juste pour un temps.
Non. Vous savez, c'est pas pour un temps. Je l'explique dans le livre. C'est que tout le monde doit entreprendre.
Tout le monde doit entreprendre.
Tout le monde doit entreprendre.
Même le président contexte de la République.
Le contexte africain nous oblige tous à entreprendre. Si on ne le fait pas, on ne change rien. C'est-à-dire que tu peux travailler comme tu veux, mais et une activité à côté. Donc voilà, c'est un peu ça. Moi, l'entrepreneuriat, c'est une deuxième passion et ça reste en moi. Je vais entreprendre jusqu'à ce que j'ai mouru.
Les confessions. Alors, tu te considères comme un écrivain ou écrire pour toi est juste une occasion de faire passer un message?
Alors, je ne me considère pas d'abord comme écrivain. Écrire pour moi, c'est d'abord vraiment pour passer un message. Je ne suis pas d'abord écrivain de carrière ou de nature, mais c'est d'abord pour passer d'abord un message. Je trouve que c'est les meilleurs moyens pour passer les messages aux gens.
C'est quoi ta vision?
Ma vision à moi, vous savez, ma vision à moi, c'est premièrement d'échanger le... Je vais pas dire de changer le monde, mais je vais dire d'abord d'échanger l'Afrique, d'échanger la perception qu'on a de nous, Africains. Et je pense qu'avec les actions que je mène, avec les actions que je vais mener, et tous les projets en suspens et en papier, je pense que je vais atteindre tout ça. C'est vraiment d'abord d'échanger. Vous savez, j'en parle même dans mon livre. Je fais référence à Alain Foucault. C'est un exemple pour moi. Il fait de son mieux de changer vraiment, de redorer l'image de l'Africain et de l'Afrique. Et moi, pour moi, ma vision, c'est d'abord d'échanger l'image, la perception qu'on a de nous et de défendre surtout nos valeurs intrinsèques.
Changer la perception que l'Africain a de lui, qu'on a de l'Africain aussi. Mm-hmm. Mais changer ça en quoi?
Premièrement, vous savez, quand je dis changer, c'est d'abord par le travail. Quand vous voulez que l'on vous respecte, vous devez premièrement vous respecter vous-même et montrer aux autres qu'ils ont l'obligation de vous respecter. C'est ce que même j'ai fait quand j'avais un peu honte de mon âge. Je devais me faire respecter par mon travail. J'étais obligé d'être parmi les deux premiers. Et donc, c'est même aussi ça dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si vous voulez toquer à une porte et quand on voit ton âge, c'est un peu compliqué. Mais après, tu contournes, tu fais de ton mieux pour qu'on te respecte et pour que la perception des gens change sur ta personne.
Alors, aujourd'hui, tu te vois déjà comme un professionnel. Quelle est ta plus grande compétence professionnelle à ces jours, selon toi, bien sûr? Tu connais tes capacités, tes compétences. Alors, c'est quoi ta plus grande compétence professionnelle dont tu es fier et avec laquelle, d'ailleurs, tu penses que tu peux évoluer partout?
Alors, je pense que la plus grande, en tout cas, très bonne question, c'est vraiment plus formateur. Je pense que je suis beaucoup plus dans les formations assez approximatives avec les gens, c'est-à-dire beaucoup plus proche des gens. Je pense que c'est vraiment la compétence que j'utilise beaucoup plus.
Former.
Oui, former.
Former en quoi?
Former en entrepreneuriat. Okay. Je n'aime pas motiver, donc je préfère former.
Former et devenir entrepreneur, c'est ça?
Oui, oui.
Et rapidement, on peut avoir quelques éléments essentiels pour devenir entrepreneur. Rapidement, en une minute, les clés, les fondamentaux, selon toi, en
vous
tant
savez,
que formateur.
Je vais répondre comme j'ai répondu hier. En fait, c'est une même question qu'on m'a posée hier. Les clés pour devenir entrepreneur, c'est que quand tu seras au chômage, tu seras obligé de devenir entrepreneur. Quand tu vas regarder ce qui se passe dans le monde, quand tu vas regarder le chaos qu'on est en train de vivre, tu seras obligé d'entreprendre.
Donc, ça ne sert à rien de passer par la formation. Il faut passer d'abord par un chômage et après...
Non. En fait, ce que tu vis va conditionner que tu entreprends. Vous savez, aujourd'hui, les problèmes, c'est quoi? C'est que quand tu vas dire à quelqu'un, voilà les clés, il faut faire ça, 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 il va arrêter. Ça sera un confort. Il va commencer une activité, puis il va s'arrêter. Mais quand tu es obligé d'entreprendre, même si le président de la République venait te dire d'arrêter, tu ne vas pas arrêter. Donc, parce que c'est ce qui te nourrit. Et moi, je préconise le fait que la situation que tu vis va conditionner tes actions, va conditionner le fait que tu vas devenir entrepreneur.
Ok, d'accord, merci. Alors, comment tu te vois dans 5 ans? Nous sommes dans les confessions.
Dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois terminer d'abord à l'Unikin, j'espère. Je me vois en train déjà de former beaucoup plus de jeunes. Et je me vois aussi dans une communauté où on est en train d'évoluer ensemble. Je suis de ces personnes qui pensent que je ne peux pas évoluer seul et que je dois évoluer avec les autres parce qu'on est complémentaires. Chacun a quelque chose que Dieu a déposé en lui qui doit me servir. Et donc, je me vois dans 5 ans avec une très grande communauté de jeunes qui sont en train d'impacter le Congo et l'Afrique.
Ok, je pensais que tu allais dire que tu te voyais déjà président de la République.
On n'anticipe pas les choses. La politique, c'est après l'entrepreneuriat.
Ok, ça c'est bien. Il y a toute dernière confession que tu as à nous faire aujourd'hui, Fildi. C'est de nous parler d'un leader et d'une personne qui t'inspire, mais tu ne lui as jamais dit ça.
Ok. Congolais ou africain?
Mais ça dépend de toi, je ne sais pas.
Ok, je vais aller congolais parce que la cible directement pour que, en tout cas grâce à Dieu qui me contacte après. Je vais dire ça à Monsieur Jean-Claude Chimpama. Vous savez, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Je pense que lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, je l'avais déjà contacté pour l'exprimer ma joie et ma gratitude pour tout ce
qui... La personne qui t'inspire le plus, c'est...
Monsieur Jean-Claude Chimpama, en tout cas, c'est vraiment le summum, en tout cas. Lui, quand je l'écoute parler, ça me motive, moi, et ça me pousse à aller un peu plus de l'avant. Et je pense que tout ce qui m'est arrivé, c'est aussi grâce au fait qu'il y a un moment, je l'ai écouté. Au travers de ses vidéos, au travers de ses formations, au travers de ses publications, vous savez, on néglige parfois une publication, mais une publication peut changer toute une vie. Et parfois, peut-être, il y a une publication qu'il a faite, peut-être qu'il a négligé, mais peut-être ça a façonné, ça a fixé toute une vie, peut-être une génération au travers de vous.
Alors, c'est lui l'image, selon toi, du modèle d'un entrepreneur ou d'un leader
africain vraiment... Oui, en tout cas, il m'inspire beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un Congolais d'abord, et puis deuxièmement, c'est un chrétien. Et après, il a des valeurs fortes qu'il prône. Et je pense que c'est quelqu'un que je dois, que je suis en train vraiment de pas d'imiter, mais vraiment qui m'inspire directement. Et je pense que un jour, en tout cas, je veux lui dire ça en face.
Alors, Fildi, on arrive déjà à la fin de notre émission. On voulait rentrer dans l'univers de ton livre. On comprend un tout petit peu ce que tu nous dis, mais on comprend que tu caches certaines choses et que tu veux que les gens te rapprochent pour aller plus découvrir les livres en profondeur. C'est ce que moi, je comprends en tout cas. Et alors, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Un tout dernier mot à passer. Moi, j'ai appris que tu vendais des œufs. J'aime bien les œufs. On en mange. Alors, comment il faut faire pour acheter les œufs en question? Est-ce que vous avez un point de vente?
Alors, là, il faut d'abord cliquer sur Facebook. On a une page Facebook, dit... Donc, vous m'envoyez un message. Il y a un community manager très excellent qui est tout le temps là. Il est même en ligne en ce moment. Donc, quand vous écrivez « j'ai besoin de tel nombre de œufs », en tout cas, il va directement vous répondre très rapidement et vous allez avoir votre plateau d'œufs directement jusque chez vous. Et d'ailleurs, on va vous montrer le parcours, comment d'abord l'œuf il sort, l'œuf bio que vous allez avoir jusqu'à chez vous. Donc, c'est un peu ça. Et le message que je vais dire...
C'est quoi la capacité que vous produisez aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, on a une capacité de 3 plateaux par jour. Donc, on a 3 plateaux par jour qui fait beaucoup plus par mois, mais c'est peu. Je pense qu'on va multiplier ça fois 3 jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, en tout cas, on va avoir une très grande quantité parce que la demande de l'été est énorme. Et là, je pense, avec la communauté qu'on a, on va avancer ensemble parce que... Ça demande à ce que...
Les œufs, c'est aussi avoir beaucoup de poules. Donc, il faut
avoir beaucoup de poules, avoir un très grand espace et aussi avoir des personnes de confiance et des jeunes.
Un dernier mot,
en tout cas, je dirais merci d'abord à vous pour l'occasion et pour l'opportunité. Et aux auditeurs, en tout cas, vous n'avez pas le choix, vous devez entreprendre. Si vous n'entreprenez pas, vous allez rester là où vous êtes. Et si vous restez là où vous êtes, vous n'allez pas atteindre ce que Dieu a prévu pour vous. Merci beaucoup.
Merci, c'est la fin de l'émission. Mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous avez écouté un jeune entrepreneur. Il est étudiant, il est très ambitieux et il rêve même d'arriver un peu plus loin, comme vous l'avez entendu. On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous. Restez connectés à la 94.7.
« Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la U-Job. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.